got you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Pascaline Potdevin, Christophe Comte et Olivier Lam pour parler ensemble de Brol d'Angèle, Aviary de Julia Holter. Il y aura un coup de cœur de Pascaline Potdevin pour El Mal Querer d'Orsalia. Et Lucille Como est également avec nous ce soir car nous aurons la chance de pénétrer dans son petit salon. Avec une question, ainsi résumée, mais le lancement sera différent, je le découvrirai juste avant de le faire. Le rap français est-il désormais au service du grand capital? Point d'interrogation. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition On Air. Carte blanche à Thomas Saraceno, c'est jusqu'au 6 janvier au Palais de Tokyo à Paris. Dans le tourbillon médiatique qui met sans cesse en avant de nouveaux artistes, la grande gagnante de ce mois d'octobre est sans conteste Angèle, dont le premier album Brol vient de sortir. Fille du chanteur Marca, de la comédienne Laurence Bibeau, sœur du rappeur Romeo Elvis qui fait d'ailleurs un featuring sur l'album. La jeune femme a sans doute eu de bonnes fées sur son berceau, repérée sur Instagram. La Belge a assuré l'an dernier les premières parties d'IBI et de Damso avant de sortir son premier single fin 2017. Gros succès, elle a fait un premier concert à Paris au Trianon en mai de cette année. Puis de grands festivals cet été, le disque est enfin là. Écoutons Les Matins.
Au goût amer, était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Tu te manques et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai. Oui, je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Voilà pour cet extrait de l'album d'Angèle, premier album. Alors Pascaline Potdevin, vous aviez rencontré Angèle au mois de juin pour Grazia en plein enregistrement. De nouveau, il y a quelques semaines, pour la sortie du nouvel album. Vous êtes totalement fan, donc
Non, pas forcément. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, fan, pour moi, fan est un bien grand mot.
Vous êtes fan de qui, par exemple?
Moi, bah, vous savez...
Vous pouvez le redire.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Lynn Renault.
Voilà, Lynn Renault, exactement.
C'est pas vrai, c'est une affaire.
Non, mais pour revenir à Angèle, effectivement, moi, c'est un album que j'aime beaucoup. Donc, effectivement, j'avais assisté à sa gestation, entre guillemets, brièvement, puisque j'étais allée écouter quelques titres en studio. Et quand il est arrivé, j'étais plutôt contente ça répondait plutôt à mes attentes. C'est un album que j'aime bien, qui est extrêmement facile à écouter. En ce sens, il me rappelle, voilà, c'est un album de pop, il me rappelle en ce sens le premier album de Lily Allen, qui était sorti en 2008, ou même encore plus tôt un album de Dido, la chanteuse anglaise, No Angel, en 1999. Pour moi, les points communs de tous ces disques, ce sont donc des artistes féminines qui ont des productions dans l'air du temps, sur chaque chanson, très efficace. Donc, dans le cas d'Angèle, c'est des productions plutôt urbaines qui vont un peu voyager vers parfois le zouk, parfois le reggae, parfois la pop toute simple, piano-voix. Une production plutôt élégante, je trouve. On n'est pas dans de la variété plate et sans saveur. L'autre chose qu'elle a en commun, donc je citais Lily Allen et Dido, c'est le fait de savoir écrire de petites histoires. Vraiment, ces chansons, c'est des petites histoires presque cinématographiques. On voit des vignettes comme ça, on voit ce qui se passe et dans lesquelles aussi on peut s'identifier énormément. Alors, dans toutes ces petites histoires, il y a des chansons d'amour, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps, comme le sont les prods. Il y a une chanson sur l'homosexualité, une chanson sur le mouvement MeToo, Balance ton porc. Balance ton quoi chez elle. Des choses sur le sexisme, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Angèle, elle a 22 ans, elle est dans l'air du temps. Mais au-delà de ça, je trouve que ça marche aussi parce que c'est une vraie musicienne qui sait écrire des mélodies. Ses chansons, elle les a écrites, elle couve en fait depuis plusieurs années. Elle a commencé à les écrire toute seule dans sa chambre, sur son clavier. C'est une fille qui a fait, je crois, une quinzaine d'années de piano. Elle sait écrire, elle a vraiment ce talent d'écrire de bonnes mélodies, très efficace et singulière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je lui reconnais. Je trouve que Les Matins en est un bon exemple. Il y a aussi Je veux tes yeux, qui était, je crois, le deuxième single, qui est un bon exemple de ça, avec son côté un petit peu orientalisant. Et au-delà de ça, moi, ce qui me touche chez Angèle, c'est quelque chose qui m'a touchée la première fois que je l'ai vue sur scène, qui était au festival Eurosonic aux Pays-Bas, qui est un festival de showcase. Et à l'époque, seul son premier single, La Loi de Murphy, était sorti, qui est une chanson un peu goofy, un peu gag, où en gros elle raconte une journée de merde, passez-moi l'expression, où rien ne va.
Je vous la passe, tiens.
Voilà, merci. Et c'était une chanson un peu drôle, un peu gag. Et je m'attendais à ce que tout soit un peu comme ça, je connaissais aucune chanson, et j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus inquiet. Et cette inquiétude, on va la retrouver dans tout l'album. Inquiétude par rapport à l'amour, à la jalousie, à l'avenir, aux réseaux sociaux. Et en sache, alors elle est symptomatique de sa génération parce qu'elle parle de ce côté schizophrène entre « je veux qu'on me regarde tout le temps », d'ailleurs « je veux tes yeux », ça veut dire ça aussi, « je veux qu'on me regarde mais ça me fait mal, je veux être légère mais en même temps j'ai des soucis ». Et cette inquiétude qui est latente par rapport à tous ces sujets partout, je pense, est aussi symptomatique de sa génération, pardon, et ça me la rend très touchante. Donc voilà, pourquoi Angèle, je la trouve... Souvent, j'entends dire d'elle qu'elle est fraîche. C'est un mot que j'aime pas, que sa musique est fraîche. Moi, c'est un mot, personnellement, que j'aime pas, parce que je trouve que j'ai l'impression qu'on parle d'une tomate, et là, on parle juste d'une musicienne.
Ça dépend si c'est dit par quelqu'un de 14 ans ou de 34.
C'est vrai, mais moi, je sais
qu'elle... Elle est fraîche, Angèle.
En l'occurrence, moi, c'est pas un mot que j'aime bien. Je sais qu'elle, ça la dérange pas, j'en ai parlé. Et je trouve qu'elle est plus complexe que ce qu'on peut en entendre de prime abord.
Alors, 19h12, vous écoutez France Culture La Dispute, c'est l'heure de la conférence du professeur Olivier Lame sur Angèle et le flou. Je renvoie un article de fond dans Libération la semaine dernière, me semble-t-il,
il y a deux semaines.
Mais je vous relis tellement que j'ai l'impression que c'était hier.
C'est gentil. J'en ai fait un peu une sorte de symptôme et de symbole de quelque chose de la pop francophone actuelle, qui est qui est multi... multifactoriel, on va dire. Je parle comme prof de fac.
Excuse. Professeur Lame est de retour.
Non, mais et je pense que je me suis un tout petit peu trompé en la mettant autant en avant elle, mais parce que je pense que j'étais très à la fois agacé, intéressé. Je la trouve à la fois vraiment médiocre.
Qu'est-ce que vous disiez d'elle?
Alors, je disais d'elle qu'en gros, elle incarnait vraiment...
Tout le monde ne lit pas Libération.
Absolument, ce mélange de subversion revendiquée, en tout cas, cette odeur de subversion dans laquelle on peut essayer de faire dégager d'une proposition artistique, et en même temps, quelque chose d'absolument... fade et inoffensif derrière. Voilà. Je maintiens absolument ça sur ce disque, mais je pense qu'il faut pas non plus trop trop la câbler, mais je pense qu'en même temps elle a quelque chose. Je pense que le pire concernant Angèle avec ce disque, qui est son premier, qu'elle a fait très très vite, hein, puisqu'elle en gros le buzz, comme on dit, a commencé autour d'elle sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Il y a avec donc
la loi de Murphy.
Avec la loi de Murphy, il y a à peu près un an.
Et je pense que très jeune, non très âgée là.
22 ans.
22. Voilà.
Oui. Et très rapidement, je pense que voilà, il y a une industrie musicale qui a perçu un charme incroyable, une aisance, une voix, même si je trouve qu'elle ressemble plus à celle de Louane qu'à celle de... Je sais pas qui d'ailleurs.
De Marianne Faithfull.
Non mais voilà, c'est une Louane qu'on nous vend comme quelque chose de cool. Et voilà, qui a, je pense que l'industrie a vu qu'elle pouvait en faire quelque chose de très fort parce qu'il y a un charme qui est évident. Elle est, on regarde un clip et effectivement, elle dégage quelque chose de...
C'est pas
un charme qui est quelque chose vraiment de difficile à décrire quand on parle d'un artiste, à fortiori quand il vient d'arriver. Mais je pense que le problème de ce disque, c'est qu'il est extrêmement paresseux. C'est-à-dire que moi, toutes les choses dont parlait Pascaline, je veux bien les entendre, mais elles ne sont pas dans les chansons. C'est très mal écrit. Enfin, c'est même pas que c'est mal écrit. C'est-à-dire que c'est vraiment de la rhétorique de rédaction de troisième. Moi, il y a des morceaux, je ne crois pas de quoi ils parlent. C'est vraiment
ça. C'est l'exégète de PNL qui s'exprime ici. Hein.
Bah, pour le coup, il y a une.
Je renvoie à d'autres articles de Libération.
Et quant à la mélodie, moi j'entends du hook, c'est-à-dire cette nouvelle manière de composer des morceaux qui peut être effectivement une science quand on s'y met à 15. Là ils s'y sont mis à 2 avec le nom de son producteur, je sais pas.
Tristan Salvati.
Voilà. Donc, et on est vraiment au maximum.
C'est quoi cette
de
science?
C'est-à-dire en gros, on prend 3 mélodies qu'on improvise plus ou moins en chantant sur une boucle, et puis quand il y a quelque chose d'un peu fort, on le prend et puis on en colle le 3 ensemble et on considère que c'est un morceau. Et là, vous pouvez faire vraiment le test avec n'importe quelle chanson de n'importe quel album. Très rapidement, au bout de 10 secondes, il y a un refrain qui revient ensuite en boucle.
C'est le principe de la pop depuis...
Je suis d'accord. Avec une sublimation, et là, pour moi, elle n'arrive pas. Et je vais aussi, avant de rentrer dans le... Je pense que ça sert à rien qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qu'elle raconte, mais surtout, la production est à un niveau de générique en termes de pop synthétique. C'est-à-dire que c'est métronomie, Stromae, point barre, avec un peu de... Dans les harmonies musicales, un peu d'emprunt, voire de plagiat de Daft Punk sur le deuxième album Discovery. Moi, qui me mette vraiment... Je suis très étonné, je n'ai pas lu le nom de Daft Punk dans un seul article sur Angèle.
Comme s'il y a une espèce
d'amnésie collective. Très bizarre. Voilà.
Christophe Comte, premier regard sur cet album d'Angèle.
Alors, bon, moi, c'est vrai que le personnage d'Angèle est apparu comme ça, de manière très, très étonnante, parce que effectivement, on a vu d'autres artistes comme ça naître sur les réseaux sociaux. Elle est née sur Instagram, comme vous l'avez dit, et j'ai envie de dire, pour faire un espèce de mot un peu intelligent, que c'est un album qui a été fait avec application, c'est-à-dire que musicalement, effectivement, il y a une application, alors on peut la trouver faiblarde, on peut la trouver assez effectivement empruntée à des tas de... Mais en même temps, c'est ni pire ni plus mauvais que certains albums qui sortent, d'albums de pop contemporaine. Mais application surtout par le fait que toutes ces chansons renvoient à des applications Snapchat, Facebook, Twitter. On sent que tout a été écrit en regard de cette expérience assez traumatisante que vivent aujourd'hui les adolescents, de la notoriété soudaine, d'une forme de violence, parce que j'imagine que Angèle, elle a pris évidemment tout ce qu'elle a gagné en notoriété, elle l'a repris malheureusement pour elle en divers commentaires, insultes, etc., comme c'est le cas de tous les gens qui deviennent des people. Et je trouve que dans ce disque, il y a quelque chose de très touchant, de très mélancolique, effectivement, de très triste, parce que quand sur le dernier morceau, elle se dit est-ce que ça va durer, est-ce que ça va durer 6 mois, est-ce que... On sait très bien que ça va pas durer. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de chanteuse. Alors évidemment, on va citer des contre-exemples, les Vanessa Paradis.
Donc il y a plus de chances que ça ne dure pas que ça dure.
Et à la limite, tout est inscrit quand même déjà dès le départ. Et puis ce qu'elle raconte aussi de ce milieu dans lequel elle est, plus sans y être vraiment, qui est le milieu du hip-hop, on en reparlera tout à l'heure, mais le côté la thune, le paraître, l'envie d'être quelqu'un, tout ça est quand même, je trouve, concentré sur un disque assez étonnant, assez perturbant, assez troublant. surtout quand on a des ados, de se dire, oh là, mais c'est ça en fait, le fait qu'ils vivent ça, c'est-à-dire qu'ils aient ce recul-là de pouvoir formuler sur une musique pop en plus. Ça c'est un peu on doit en parler quand même parce que c'est de la musique. Moi j'aime bien la pop et je trouve que ce disque répond complètement à la commande, parce que quand je l'ai écouté deux fois, je me souvenais de tous les morceaux, je les avais en tête de manière parfois même gênante tellement voilà. Ouais, donc ça déjà le contrat est quand même réussi. Après bon, effectivement c'est pas, on va parler tout à l'heure de Julie Holter, on n'est pas du tout dans la même dimension. C'est une artiste
de disque de ambiance.
Voilà, c'est une artiste qui aujourd'hui mérite pas, en tout cas, de concentrer sur elle des fusils habituels des amateurs de musique qui vont arriver en disant ah là là, qu'est-ce que c'est que c'est. Je sais pas, il y a un truc quand même chez elle. Déjà, son grain de voix est quand même assez étonnant, je trouve qu'elle a une empreinte vocale qui existe, même s'il y a de l'autotune et tout ce qu'on veut. Il y a des trafics. Elle a quand même à la base une voix que je trouve assez intéressante, plus intéressante que celle de Louane, même si on peut effectivement faire des parallèles. Et voilà, sur l'ensemble, je trouve que c'est un disque qui a plein de... C'est vraiment un dragé au poivre, quoi. Il y a un côté vraiment un bonbon au départ, et à l'intérieur, il y a des choses qui grincent un peu, des choses un peu acides, et parfois faites de manière très naturelle, parce que ce qu'elle dit, effectivement, a l'air d'avoir été écrit très vite. Et je pense que c'est mieux qu'elle n'ait pas tellement réfléchi à ses textes, les formulations en mauvais français, avec la thune, je ne sais plus ce que c'est, tout ce qu'ils veulent, je ne sais pas quoi. Enfin, bah, vous savez, ces formules qu'on entend, qui font mal aux oreilles quand on les entend, quand on les lit. Mais là, je trouve que, je ne sais pas, il y a un charme qui opère justement dans cette malfaçon un peu qu'elle a de construire ses chansons.
Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas écouté une seule note d'Angèle jusqu'à la semaine dernière, donc j'étais... pour dire la vérité, j'avais plutôt des a priori négatifs, parce que quand il y a un tel battage, quand il y a toutes les unes comme ça, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est encore le nouveau truc? C'est le truc de la semaine, en gros, ou du mois, quand on a de la chance, comme elle. Là, je sais pas si c'est de la chance, mais je pense finalement qu'elle le mérite plutôt, parce que j'étais aussi plutôt agréablement surpris, parce que je trouve qu'il y a une efficacité qui est au rendez-vous, et que il y a quand même une longue liste de jeunes femmes qui chantent des chansons, à la frontière de la variété et de l'électropop, pour aller vite. Mais que chez Angèle, c'est efficace, qu'il y a un sens mélodique, moi, que je trouve très, très, très juste aussi. Plutôt sensible aux paroles. Moi, j'étais très surpris que mes adolescentes à la maison, non seulement la connaissent, mais l'aiment beaucoup déjà, alors que moi, je ne savais pas qui c'était. Et moi, qui ai une passion pour les vrais slow, Taren, c'est un morceau que je trouve très réussi, que j'aime beaucoup. Et je suis comme vous, Christophe, j'étais surpris de retenir autant les mélodies et les chansons d'Angèle. Vous êtes consterné, Olivier Lam ?
Non, pas du tout. Là, je me retrouve dans le rôle du scrognieux. C'est pas agréable.
Vous aimez ce rôle-là.
Et surtout, le vieux scientifique. Comment t'as dit, Christophe ? Je sais plus, le vieux scientifique ou je sais pas quoi. Bref. Je m'attendais à... Je trouve que c'est un disque qui est ni drôle, ni charmant, ni émouvant. Donc, je suis complètement en dehors et je ne vois que des stratagèmes. Donc, forcément, je peux pas vraiment vous suivre. Après, comme je dis, elle a un charme qui s'exprime. Elle a une manière d'habiter ses chansons qui est indéniable. Sinon, elle ne toucherait pas autant de gens. Mais je la trouve beaucoup plus touchante quand je regarde une vidéo d'elle en train d'improviser une chanson sur Instagram que quand j'écoute n'importe quelle chanson de cet album, que je trouve très déceptif, en fait, justement, dans ce côté bonbon. Moi, je trouve que c'est pas un bonbon. Alors, c'est un bonbon raté. Je trouve que c'est très, je trouve ça très froid, en fait, très
dévitalisé.
Je trouve que tous les emprunts à d'autres genres musicaux sont quand même au maximum de l'inoffensif. C'est-à-dire qu'on va chercher un peu de rythme africain, un peu de reggae, etc. Mais pour sortir quand même une soupe, moi, je trouve que, enfin, à côté de ça, Alain Chamfort, c'est Wagner. Enfin, je veux dire, il y a un truc, moi, qui me met très mal à l'aise. Oui, voilà,
nous avons la punchline pour le site. À côté de ça, Alain Chamfort, c'est Wagner.
J'aime beaucoup Alain Chamfort.
Dernier single, justement, je me dis là, on est en perte de. Enfin, après, est-ce qu'on va vraiment comparer Angèle et Alain Chamfort?
Non, ne suivez pas le professeur Lam pour ces traces-là, Pascaline.
Non, moi, je reste sur mon idée. Moi, je persiste dans le sens où vraiment, je la trouve assez douée dans ses mélodies. Mais en tout cas, je rebondis aussi sur ce que dit Olivier à propos de l'importance d'Instagram. Parce que je pense qu'Angèle, il y a aussi une chose importante à savoir, c'est pas juste un disque, en fait. Angèle, c'est. Ça aussi que c'est un artiste très symptomatique de sa génération. Angèle, c'est un personnage qui s'est construit sur Instagram.
Sur les covers sur Instagram.
Voilà, et aussi sur les vidéos dont elle abreuve son fil Instagram et ses stories, qui sont souvent extrêmement drôles. Elle est très très drôle, elle est très naturelle. Alors, le fait qu'elle soit jolie, ça aide peut-être, mais je pense que c'est pas... Il n'y a pas que ça à voir, en fait. Elle est très libre. Alors, ça vient peut-être de sa maman comédienne, je sais pas. Mais elle fait des grimaces, mais en permanence. Elle sautille comme une enfant. Elle est très souvent avec son boyfriend qu'elle met en avant, chose que les pop stars ne font pas souvent. Elle dit que c'est une manière de se protéger, au moins comme ça, on sait que son cœur est pris, comme ça, oups, on arrête de l'embêter.
Et pas sûr que ça marche absolument. Bon,
voilà.
Ouais, on en reparlera dans quelques temps.
Tout ça pour dire que je trouve, encore une fois, quand je parle de complexité du personnage, c'est ce côté, moi, avant d'écouter l'album, où je la voyais vraiment rigolote et je m'attendais vraiment à une petite chose sautillante comme ça, et découvrir ce disque avec toute cette mélancolie.
Ce n'est pas Anaïs 2.
Voilà.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, à mon avis, parce que ça me fait penser à quelqu'un d'autre quand Pascaline en parle, c'est qu'elle est belge et elle a un côté Virginie Efira, quoi. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'air comme ça totalement inoffensif et qui peut effectivement à un moment surprendre par et ça c'est quand
quelle
même
quelle belle comparaison.
Non mais la Belgique est un vivier de gens qui ont l'air comme ça d'être un peu ébahis, un peu et qui trompent un peu leur monde, et on les voit, Virginie Efira dans le film de Verhoeven, quand même personne ne l'attendait, même si elle a un rôle un peu subalterne, mais quand même quoi.
Elle fera un grand rôle dans le prochain Verhoeven.
Voilà, et je trouve c'est un peu ça. Angèle, elle est un peu surprenante parce que justement, elle est à la fois inoffensive, mais pas autant marketée qu'on ne le ferait d'une artiste française classique qui tout de suite serait drapée, une espèce de mystère comme ça. Là, il y a un truc très naturel, effectivement. J'en ai pas vu beaucoup, mais ces vidéos sur Instagram, elles la mettent pas forcément en valeur. Et en même temps, comme dit l'autre, elle est quand même d'une sorte de naturel absolument renversant.
Écoutez. Par vous-même, Brawl, c'est le titre de l'album d'Angèle, chez Angèle VL Records. Beaucoup de concerts, ça commence après-demain à Bruxelles, puis il y aura Saint-Lô, Villefranche-sur-Saône, retour au Trianon à Paris le 23 novembre, puis des allers-retours Belgique-Liège en novembre, puis en décembre Orléans, Angers, Angoulême, Alençon, Grenoble, Montpellier, Château-Renard, bref. Ça se poursuit jusqu'au 12 et 13 mars, où elle sera carrément, cette fois, Angèle à l'affiche de l'Olympia à Paris. À suivre dans la dispute, effectivement, deux salles, deux ambiances, à Biarritz, de Julia Holter, chez Domino, le coup de cœur de Pascaline Potvin pour Rosalia, et puis un petit salon de Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite donc de cette dispute avec l'album fou que livre Julia Holter, qui sera dans les bacs ce vendredi, démesurément long, empli de sonorités venues d'ailleurs, un voyage plutôt déroutant pour son auditeur. Il y a des plages qui paraissent plus calmes, mais c'est souvent trompeur. À titre d'exemple, on écoute I Shall Love Too.
That is all, there is nothing else. Thank you.
cares what people say? Who cares what people say?
Love, Julia Hulter, You Shall Love. Olivier Lam, tiens, pour commencer.
Oui, j'aime beaucoup cet artiste et j'aime beaucoup ce disque qui fait quelque chose qui ne se fait pas dans l'indie pop branché, en tout cas dans lequel évolue cette artiste californienne, c'est-à-dire faire un disque de 1h30, surtout après un disque où a priori on a concentré son art dans quelque chose de plus d'un peu plus accessible, puisque c'est quand même c'est une artiste qui vient quand même du conservatoire, qui a étudié la musique savante et qui a fait les premiers disques étaient quand même des expériences plus que des albums de pop, en tout cas des albums de chansons, qui étaient toujours sur un travail très intéressant, moi je trouve, entre le concentré et le délayé. Et donc son dernier album en date, dont j'ai oublié le titre, il y a eu un live entre temps, on disait que c'était son plus pop, et a priori elle était une espèce de nouvelle Kate Bush, et là elle fout tout en l'air avec un disque d'une heure et demie, donc chaque morceau est généralement construit d'une manière très étrange, avec des sortes de soundscapes, comme on dit, des paysages sonores qui petit à petit en fait se s'organise pour finir par faire des chansons, des refrains et des mélodies souvent magnifiques. Et elle qui vit là dedans à la fois comme une chanteuse et aussi comme une poète sonore, comme une performeuse. Voilà, donc c'est une néo Laurie Anderson et pour de vrai, et qui a le, je trouve, le même la même gouaille, le même courage, la même audace, et en même temps elle a ce côté, voilà, pour citer, puisque c'est le grand ressort théorique actuel. Elle a un côté un peu pimbèche, première de la classe, qui a tout bien appris, dont chaque petite idée musicale avait l'air d'être un petit peu empruntée quelque part, qui a les bonnes références, et que c'est vrai que quand elle lance comme ça les chevaux de l'apocalypse, de la Xenakis, voilà ce qu'elle cite comme sur ce morceau, moi que je trouve fascinant, mais voilà, qui s'appelle Every Day is an Emergency, et ben on sait qu'elle connaît, et que c'est pas une idée qu'elle a eu, une idée poétique qu'elle a eu voilà, de manière spontanée. Donc moi j'admire à la fois son courage, je suis un peu agacé par son côté première de la classe, voilà, ces gens qu'on croise à la bibliothèque, à la fac, et qui ont déjà tout lu quand vous étiez en train de faire la fête, qui connaît dans le texte Anne Carson, Pushkin, etc., qui va citer de la poésie lettriste, etc., et en même temps voilà, j'admire son courage, j'admire aussi son talent, parce que voilà, il y a un souffle, voilà, évident dans ce disque qui va se faire massacrer parce qu'il est trop long et trop expérimental au sens propre, pas dans le sens où il serait de la musique expérimentale, mais dans le sens où il accepte de se perdre un peu pour se trouver aussi. Donc
c'est pas une raison pour se faire massacrer tout de même.
Ah, moi,
mais
je pense qu'elle va se faire massacrer.
Disons en tout cas que donc elle va, parce que le disque, je rappelle, sort vendredi seulement dans les bacs. Le morceau qu'on a écouté, quand même, un des plus accessibles et un des plus courts, si ce n'est le plus court de l'album. Je précise quand même que, parce que peut-être nos auditrices et auditeurs se disent bon, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on vient d'entendre. Ce qu'on vient d'entendre correspond pas tout à fait à la teneur générale de l'album, Christophe Comte.
Ah, moi je trouve que ça correspond
un
assez
peu,
bien.
Mais c'est à celui-là est beaucoup plus accessible, je dirais.
Alors, moi, j'adore Julia Holter depuis le premier jour où j'ai entendu un de ses morceaux. C'était pas sur son premier album, mais sur le deuxième. Et depuis, je suis toujours impressionné par sa rapidité d'exécution, parce qu'elle fait quand même beaucoup de disques. Et également par, voilà, sa l'itinéraire solitaire et obtus et relativement cohérent quand même qu'elle a développé jusqu'ici à travers des disques, certes, qui sont pas les plus simples à aborder, mais qui, alors là, il y a l'idée de la volière, donc Aviary, donc elle le dit elle-même, hein, c'est un disque qui prend en compte l'apocalypse du monde qui l'entoure, le chaos. Alors elle parle de Trump, mais pas seulement. Elle dit voilà, il y a un chaos que tout le monde ressent, hein, d'une certaine manière, peut-être qu'il est un petit peu, qu'il a toujours existé, mais qu'aujourd'hui il est peut-être un peu plus, il y a des capteurs un peu partout, donc on sent ça, et on sent qu'elle a absorbé tout ça et qu'elle a essayé d'en faire une œuvre où elle est à la fois disons maître un peu de tout ça, parce que c'est quand même elle qui le crée, mais elle se met aussi dans la position de quelqu'un qui en est le voilà, qui en subit les conséquences. Donc il y a quelque chose d'assez inquiet, je trouve, dans ce disque. Le premier morceau est assez chaotique et on ressent quelque chose qui pour le coup est de l'ordre vraiment de l'organique, hein. On le ressent vraiment quand on l'écoute, il y a quelque chose qui dérange. Il y a plusieurs passages dans le disque qui dérangent. Il y a un moment où il y a une sirène là qui dure assez longtemps. Alors pour les habitués de la musique sérielle et tout ça, c'est du bubblegum, mais pour d'autres, ça paraît un truc un peu plus difficile d'accès. Et en même temps, c'est un disque qui reste quand même un disque pop malgré tout, dans le sens où il y a des mélodies, il y a des arrangements qui sont très très beaux, une matière sonore avec laquelle elle jongle depuis très longtemps, qu'elle malaxe, et avec laquelle elle a beaucoup de facilité. On sait qu'elle a à l'origine aussi, en dehors de tout son parcours plus universitaire, une passion pour cette chanteuse qui s'appelle Linda Perrax, qui a fait un album absolument magnifique dans les années 70 et qui a disparu pendant 40 ans et qui est revenue un peu grâce à elle, puisqu'elle a fait des duos avec elle et elle l'a accompagnée dans sa résurrection. Et on retrouve ce caractère très pur, très virginal qu'a ce premier album de Linda Perrax, dont Julia Holter, d'une certaine manière, construit un peu la suite dans son propre travail. Il y a quelque chose de très filial entre elles et de très maternel pour l'une. Et il y a quelque chose, vraiment, quand on suit un peu leurs aventures à distance, on sent qu'elles sont vraiment très proches. Et je trouve que dans ce disque qui a l'air comme ça, d'un tout très dur à absorber, il y a quand même une évidence à la fin, c'est que c'est quand même aujourd'hui dans la musique populaire, on va dire au sens large du terme, une des créatrices les plus folles, quoi, les plus, malgré sa sagesse, de fait c'est pas Kate Bush, mais dans le fond elle est incroyable, quoi. C'est quand même, je trouve, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel.
Pascaline Potvin, votre regard à vous sur Julie Alter.
Moi, c'est un album aussi que je trouve sidérant, que je trouve vraiment très très beau et dont moi je salue l'incroyable liberté, en fait. La liberté que Julie Alter s'octroie elle-même d'aller vraiment où elle veut. Je trouve que l'album, il reste quand même... En fait, elle s'amuse à nous donner quelques repères. Quand on connaît un peu effectivement ses albums précédents, on retrouve un peu ses obsessions, donc on en a parlé. Son goût pour la musique moyenâgeuse ou baroque, mais aussi la musique sérielle, expérimentale. Son goût pour les mélodies pop très pures avec sa voix comme ça d'enfant sage qui vient un peu calmer le jeu, et son goût pour les synthés un peu solennels à la Blade Runner qu'on va entendre comme ça parsemé. Mais elle a pris comme ça ses tropismes, en fait, ce qu'elle aime faire, ses chansons, et on a l'impression qu'elle les a complètement démembrées, et je trouve que c'est beau d'avoir eu cette liberté-là. J'ai l'impression de chansons démembrées, écartelées, puis recomposées, un peu comme des monstres. Il y a un côté monstrueux dans ce disque, mais monstrueux au sens de fascinant. Je rejoins l'idée d'Olivier quand il parlait de paysage sonore. Moi, j'ai l'impression de traverser comme ça un paysage à la fois très très beau et très très effrayant, dans laquelle, des fois, elle nous attrape, des fois, elle nous rejette. Il y a une espèce de flux et reflux comme ça qui est assez, assez fort. Des fois, on est presque dans la répulsion, effectivement. Je trouve que le meilleur exemple, c'est cette chanson que Olivier citait, et peut-être aussi Christophe quand il parlait de Sirène. Donc, c'est Everyday is an Emergency, qui commence quand même avec des cornemuses comme ça dans tous les sens. C'est un peu les oies sauvages quand même, un peu compliqué. Et ensuite, ça part dans un truc très gracieux, très ample.
J'avais pas percuté que c'était des cornemuses.
C'est des cornemuses, si. Enfin, il me semble. Moi, j'entends de la bombarde, hein, vraiment. Donc, et voilà, toute cette liberté, je trouve ça bravo. Cette audace, je trouve ça hyper beau. Un peu trop long, quand même. Liberté d'aller. C'est peut-être la seule liberté.
Bon, il y a deux disques, on peut en écouter
aurait
un.
Peut-être qu'elle aurait juste dû se mettre une limite. Elle aurait peut-être pu choisir entre certains titres, effectivement.
Mais ça fait partie, je crois, aussi de cette liberté que vous saluez, que je salue plutôt aussi. Vous avez l'image du démembré. Moi, je pensais à des morceaux dont chacun aurait été mâché, remâché, puis recraché, et plutôt déconstruit. Je pensais plutôt à des poupées dans ce belle-mère. Enfin, quelque chose qui a une forme très étrange. On reconnaît chaque partie, mais le tout est très, très curieux. Mais il y a quand même une dimension de cérémonie païenne, quoi. Il y a quand même quelque chose d'un peu... Alors je ne sais pas si elle est mystique ou pas mystique, mais il y a une cathédrale de sons qui fait quand même que... des fois, on se sent un peu petit devant cette construction immense. Tout petit mot encore,
Olivier
Lame.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'elle y joue toujours le rôle, un peu notre rôle, en fait. Elle y joue quelque chose de très humain avec sa voix. J'aimerais juste en profiter pour conseiller un album qui sort quasiment en même temps, auquel elle participe largement, d'un musicien qui s'appelle Tashi Wada, qui est le fils d'un compositeur japonais qui s'appelait Yoshi Wada, qui est un peu sur sa veine plus expérimentale, le travail. Et c'est un disque très beau, à la fois très angoissant et très tendu, et aussi très, très apaisant, qui sort sur un label américain qui s'appelle Revenge International. Et ça permet aussi de voir un peu ce qu'elle fait à côté. Le disque sort vraiment littéralement le même jour. Donc.
Alors, deux disques achetés vendredi 26 octobre, celui dont on vient de parler, Olivier Lame. On va mettre des références dès que vous aurez donné les références complètes à sa radio, qui va se mettre ça sur le site internet de La Dispute. Et puis, Aviary de Julie Alter chez Domino. Elle sera en concert le 5 décembre au Petit Bain à Paris. C'est le moment du coup de cœur de Pascaline Potvin pour El Mal Querer de Rosalía, dont on écoute un petit son.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va.
Alors, Pascaline Potvin, vos raisons de ce coup de cœur pour Rosalia?
Eh ben, Rosalia, coup de cœur parce que j'aimais beaucoup ce titre qui est sorti en mai, donc Malamente, qui était son premier single où elle a complètement explosé. Donc, comme on peut l'entendre, c'est une sorte de R&B et de mélange de R&B et de flamenco où les interjections comme ça qu'elle lance, que Rosalia lance avec les clap de main qu'on appelle des palmas, je me suis renseignée dans le style flamenco.
On vous a bien renseigné.
Tout est très percutant et son deuxième single qui est sorti depuis Pienso en tu mira, pardon, je n'ai pas fait espagnol, donc pardonnez mon accent. Voilà, désolé. Et tout aussi bon. Rosalia, c'est qui? C'est une jeune catalane qui a 26 ans, je crois, qui a passé 8 ans à... qui a eu un coup de foot pour le flamenco, qui a passé 8 ans à l'étudier, mais vraiment, qui avait fait un premier album qui s'appelait Los Angeles... avec un musicien qui s'appelle Raul Fernandez, plus connu sous le nom de Refri, qui avait fait des albums de folk hyper belles dans les années 2000. Et tous les deux, déjà, ils revisitaient le flamenco avec ce côté pop très dépouillé. Et là, son nouvel album, qui va sortir le 2 novembre, Alma Alquerer, c'est El Guincho, son compatriote, qui le produit. Donc, on est dans un registre beaucoup plus urbain, beaucoup plus électro. Moi, ce que j'aime chez elle, en fait, pour l'avoir vue en live, j'ai regardé ses mains. Rosalia, elle a plein de bagues à chaque doigt. Donc, on ne peut que regarder ses mains. On s'attendrait à ces espèces d'arabesques très connues du flamenco. Et on a des gestes de rappeuse. Et en fait, ce mélange qu'elle fait est pas du tout artificiel, très inédit, parce qu'il va à l'épure. Ce qui ressort, c'est les percussions, la voix qui est hyper impressionnante. Et du coup, on a quelque chose de très inédit, très singulier. On n'est pas dans la carte postale latino mainstream et très cheap. On n'est pas non plus dans une version en chair et en os de l'émoticône flamenco là qu'on a tous, qu'on utilise tous pour dire « je vais danser » quand on tape un SMS ou un message. On est dans quelque chose de très singulier. Rosalia, il y a Pharrell qui veut bosser avec elle. Moi,
on
je conseille d'éviter,
non.
Voilà.
Voilà.
Mais elle va aussi être dans le prochain film d'Almodovar. Bref, je pense que 2019, pardon, on va voir qu'elle.
Bon, voilà. Rosalia, préparez-vous, l'album s'appelle El Malquerer, il sort le 2 novembre. Et sur cette terre de flamenco que nous entrons chaque fois dans le petit salon de Lucille Como, ce soir, faire du bif ou pas?
Bon, je vais te laisser. J'ai mes artistes préférés qui sont entrés dans le bureau. Oui, c'est ça. Les filles adorent.
Ah.
Adorent mon cul, oui. Bon, allez, je te laisse. Bye.
Street.
Voilà vos royautés.
Lourd.
Vous faites pas les fous, hein.
Clique, clique. Mais du bif, c'est pas compliqué.
Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né. Pas honte de l'armée, c'est pété, moi j'en pissonner. Né. Dans la jungle, je suis sauvage, un gros âge pour m'isoler. Les grosses tasses qui déboulent sous mon arbre, je les prends en le.
Je vais faire de l'oseille, mais ces bâtards veulent me gagner. Je vais faire de l'oseille, mais ces bâtards veulent me gagner.
Mes cicatrices m'ont ouvert l'âme. Je n'ai pas d'attache entre le ciel et les flammes. Mes démons jouent à cache-cache. Si je devais choisir entre tout ce bif et toutes ces bitches, je prendrais le gros chèque. Parce que l'oseille est la plus bonne des schnecks.
C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du bif, de la moula, du caramel. Du caramel.
Money, money, money.
Money, money, money!
Money, money, money!
On n'est pas un concert ici.
Oui, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-son d'un texte. Un texte qui s'appelle Rap pour Nike. C'est le titre d'un article paru ce mois-ci dans Le Monde Diplomatique, signé Julien Baldassara, qui tente d'analyser l'évolution idéologique du rap français. Un article qui a entraîné de nombreux commentaires dans les jours qui ont suivi sa parution. Alors, que dit-il? La démonstration est simple. Le rap français serait devenu, je cite, « l'appareil idéologique préféré du capitalisme pour convertir les jeunes au système de valeurs dominant ». Radical et au forceps, la démonstration oppose deux rap français, un rap conscient, capable, je cite encore, d'esthétiser la colère des classes populaires, représentée par exemple par Supreme NTM ou par Kerry James, et un rap mainstream, obsédé par l'individualisme et suggérant aux auditeurs, je cite encore, des comportements et des désirs qui correspondent aux exigences du capitalisme. Or, l'auteur du billet est formel, le premier aurait disparu au profit du second. Le rap le rap, pardon, d'aujourd'hui ne serait plus que le promoteur de la société de consommation. Inscrit dans un système industriel classique, les rappeurs auraient abdiqué leur devoir de soulèvement et vendu leur peau aux grandes marques et aux grands intérêts. Pour étayer son raisonnement, Julien Baldassarra convoque pêle-mêle plusieurs choses qui n'ont pas grand-chose à voir et qui sont des poncifs de l'analyse du hip-hop probablement depuis qu'il est devenu un élément de la culture populaire. Premièrement, une analyse sommaire de l'industrie musicale contemporaine. En gros, les rappeurs seraient pris dès le biberon dans les rouages d'un marché très lucratif, je le cite. Des statistiques concernant les paroles des textes de rappeurs populaires d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu. Là, il s'appuie sur Genius, un moteur de recherche qui recense les paroles de rap pour montrer que les termes d'argent et ses multiples déclinaisons sont omniprésents, seraient omniprésents dans les morceaux. Et puis, des stratégies médiatiques et publicitaires, d'où le titre Niska, par exemple, qui fait la pub du nouveau maillot de foot Nike. Alors, c'est peu dire que l'article a été reçu fraîchement sur les réseaux sociaux. La plupart des commentaires pointent l'indigence du raisonnement, l'absurdité esthétique du corpus convoqué, à la fois incohérent du point de vue du genre et totalement dépassé. Son protocole d'analyse, la manière dont il a fait ses choix, en effet, reste assez mystérieux. Un internaute se moque même, je ne savais pas que Finkielkraut écrivait des articles pour le Diplo. Mais force est de constater que le serpent de mer du rap conscient et dont son revers, le rap inconscient donc, fait les beaux jours de la presse. Il y a quelques mois, il ressurgissait dans les pages des Échos sous le titre « Rap, la nouvelle variété ». C'est certes plus étonnant dans les pages du Monde diplomatique. En tout cas, Julien Baldassarra peut être rassuré car hier, Kery James, le rappeur préféré des mamans, publiait le clip du premier single d'un album à apparaître très prochainement, « Je rappe encore », dont je cite quelques paroles. « La plupart des rappeurs ont baissé le futal. Moi, je dénonce le système. Ouf !» Alors vous, que vous a inspiré cet article et qu'est-ce qui se cache à votre avis derrière ce vrai faux clivage entre rap conscient et rap mainstream ?
Allez Olivier Lame, c'est à vous de vous lancer.
Je ne connais pas ce génie de l'analyse musicale qui a manifestement passé beaucoup de temps à écouter de la musique. Beaucoup de temps à passer, au moins 5 minutes sur Genius avec un moteur de recherche. Outre le fait que l'article est vraiment totalement indigent, moi je pense que... Je trouve ça presque étonnant, effectivement, que, c'est l'énième preuve que tout le monde en veut au rap, y compris à l'extrême gauche, manifestement. Mais on a la limite du harcèlement, c'est-à-dire que vraiment c'est le rap, on lui court après depuis 30 ans, en lui disant d'être soit qu'il est trop violent, qu'il fait des apologies de la violence, soit qu'il est complètement inconscient et totalement. Totalement en lice avec le grand capital. La musique n'a pas été exemplaire. Point barre. Il n'y a pas de devoir de soulèvement. La musique n'a aucun devoir, littéralement. Quant à cette rhétorique qui voudrait dire qui reprocherait à un artiste de faire l'apologie de l'argent ou du luxe, etc. Il faudrait quand même expliquer à ce monsieur que l'expression d'une contre-culture qui a ses modes de vie où la consommation est récupérée et détournée, voire retournée pour former un réseau de signes de reconnaissance, c'est une contestation en soi. Et récupérer les habits de la bourgeoisie quand on vient soi-même d'un milieu populaire, c'est une forme de subversion. C'est à la limite, si on doit vraiment rentrer dans une forme d'explication de texte, c'est la base. Le reste, c'est des artistes qui s'expriment comme ils veulent, qui sont traversés par des choses de la société. Et on est dans une société ultra-capitaliste. Et il se trouve qu'effectivement, les gens qui viennent des classes populaires veulent le croquer exactement comme les autres. Et je trouve ça fou, cette espèce de racisme social qui dirait que la musique la plus jeune et la plus proche des milieux populaires devrait être exemplaire. Et un rappeur a pas être plus exemplaire qu'un footballeur. Je me demande s'il n'y a pas une forme de racisme tout court derrière ce discours. Voilà, c'est tout.
Ouf. Pascaline Potvin.
Non, mais je suis assez d'accord avec Olivier. Je trouve que de quel droit on attend forcément des rappeurs d'être exemplaires, de donner la bonne parole, qui plus est de gauche. En fait, moi, ce texte m'a rappelé... en contrepoint, une citation de la réalisatrice Oulia Benyamina, la réalisatrice de Divine, ce film qui avait obtenu la Caméra d'Or en 2016. Et c'est une interview qu'elle a donnée à Gradia à l'époque où son film avait été taxé d'être parfois un film de droite parce qu'on y voyait des personnages qui justement voulaient gagner de l'argent. Et elle disait si on veut montrer la banlieue au plus juste, on repart rarement avec un grand film de gauche. La bien-pensance et ses fantasmes en prennent un coup. Les désirs sont avant tout des désirs de réussite avec l'argent comme valeur première. Et voilà, moi le quand j'ai lu ce papier, j'ai tout de suite pensé à cette citation. Et j'ai pensé aussi à une chose, c'est vrai que je repensais à... J'avais vu ce communiqué de presse concernant Moa Lasqual qui faisait un partenariat avec Lacoste. Et dans une de ses chansons, il parle de son polo Lacoste. Je me demande même si la chanson ne s'appelle pas Lacoste, je ne sais plus. Mais en fait, les rappeurs font du branding comme... comme Olivier disait, tout notre monde n'est que ça, en fait. On a des actrices qui font de la pub pour des crèmes de beauté ou des parfums, ou footballeurs qui font de la pub pour des marques, jusqu'à votre voisine qui va être instagrammeuse, influenceuse, qui va faire de la pub pour une marque via son Instagram. Tout le monde brande sa vie. On ne croit plus au collectif, on ne croit plus ni en l'État ni en l'entreprise. On ne croit plus qu'en soi. Donc du coup, de quel droit il ne le ferait pas? Tout le monde brande sa vie, son appart, son enfant, son chien, tout. Pourquoi pas ses chansons? Donc effectivement, je pense que ça correspond juste à l'air du temps tel qu'il est. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, j'ai pas, enfin, la musique, je me pose pas, pardon, cette question morale, en tout cas.
Alors, avant une relance de Lucille Comeau qui boue, Christophe Comte.
Bah, moi, j'ai eu l'impression qu'il découvrait l'eau chaude, un peu, ce garçon-là du monde diplo, parce que déjà, le rap a une très longue histoire, qui a souvent, les questions d'argent, de bif, de monnaie ont toujours été un argument, souvent de provocation aussi, parce que ça fait partie, je pense, que l'image que renvoie le rap de mec de banlieue qui réussirait, qui gagnerait du bif, c'est quelque chose qui choque le bourgeois beaucoup plus aujourd'hui que lorsqu'ils disent qu'il faut brûler des voitures. Donc c'est, il y a un paradoxe aussi de toujours avoir un regard comme ça sur les jeunes de banlieue, pour faire court, c'est de dire, il y a d'un côté ceux qui brûlent les bagnoles et ceux qui conduisent des Mercedes, et là entre les deux, et on sait plus où on est. Bon, d'une certaine manière, je trouve cet article non seulement un peu scandaleux, parce que déjà le moteur de recherche à la noix là, avec le bif qui revient, enfin c'est absurde, et d'autre part je trouve que ça dit un truc qui est en plus totalement faux, parce que dire que le rap conscient c'est NTM, quand on voit ce qui est devenu NTM, c'est-à-dire une machine à bif pour le coup, où les mecs se reforment tous les 3 ans pour faire des concerts où ils n'écrivent pas un seul nouveau morceau, mais uniquement pour remplir des salles entières sur leur prestige passé. Donc là, NTM comme rap conscient, je trouve ça absurde. Kery James, c'est un autre problème, parce que je pense que voilà, Kery James, il est sur d'autres logiciels que les rappeurs contemporains, mais Kery James, il a commencé il y a 20 ans aussi. Là, on est sur une génération, effectivement, de mecs qui arrivent et qui, de toute façon, ont compris que dans le vocabulaire contemporain et dans ce qu'aimait entendre aussi le public, et pas seulement le public captif, c'est-à-dire l'ensemble de la population, ce sont ces histoires, oui, effectivement, de marques, enfin, tout est comme ça. Alors moi, je vais vous raconter juste un truc très court, c'est qu'il y a quelques années, je m'étais étonné qu'un grand chanteur de gauche, conscient, comme on dit, alors je ne le nommerai pas, mais il a écrit une chanson sur une chanson bleue, une maison bleu,
d'accord,
voyez.
Bon, on voit à peu près.
Alors, il avait écrit une comédie musicale absolument épouvantable dans la lignée des Jésus-Christ, machin, je sais pas quoi. Et j'avais posé la question à quelqu'un de sa maison de disque en disant, mais je comprends pas pourquoi il fait ça, ça c'est absurde et tout. Et on m'avait dit, mais il aime que le fric. Il a envie de ramasser un maximum d'oseille. Et je trouve que c'est très symptomatique du regard qu'on a sur certains artistes, mais je suis persuadé que dans les chansons de Patrick Bruel, de Pascal Obispo, de toute la variété française, il y a autant de signes qui renvoient
avec d'autres mots et
avec
d'autres
mots,
façons donc, de le dire.
Effectivement, comme disait Olivier, il y a une concentration du regard aujourd'hui sur le rap. Alors moi, en plus, je suis pas un défenseur de tous ces gens-là. Je déteste tous les extraits qu'on a entendus là. J'ai trouvé ça abominable, mais je trouve que c'est un très mauvais procès. Il faut leur faire un procès sur la musique, mais pas sur les paroles.
Lucille Comeau.
Non, mais au-delà du procès, il faut pas non plus balayer totalement la possibilité de faire une analyse intéressante politique des textes ou de la musique du rap français actuel. Je veux dire, la question de la représentativité, en effet, elle se pose pas, parce qu'on ne peut pas demander à une musique de représenter ou d'être un pur discours. Mais de fait, poser la question de la charge politique du rap français aujourd'hui en prenant un corpus à peu près cohérent, ça ne me paraît pas être une mauvaise idée en soi.
Ça reste à faire.
Mais ça reste à faire, et surtout pas en parlant que des textes, par exemple, en parlant aussi de la musique, de l'utilisation du vocoder ou de l'autotune. Enfin, il y a plein de choses politiques à dire sur le rap français, et ça n'existe pas. Pas beaucoup, à mon avis.
Olivier Lame ?
Oui, il y a plein de choses à dire. Je pense qu'il y a un livre très intéressant qui est sorti sur le grime, cette version anglaise du rap, en même temps de la musique électronique du début des années 2000, et qui a été écrit par un journaliste très intéressant qui s'appelle Dan Hancock, et qui parle, lui, de la crise de la gentrification et de l'éloignement, enfin de l'expulsion des classes populaires du centre de Londres. Et je me suis dit, mais il y aurait une histoire du rap français à faire à travers l'urbanisme des banlieues dans les grandes villes françaises, qui serait passionnant. Ça pourrait être intéressant. Quant à une analyse de texte, etc., moi je me disais, on parle de rap conscient, inconscient, rap subconscient, voilà. Pour moi, PNL fait une musique extrêmement politique, par exemple. Voilà. parler uniquement de vide et de spleen tout en parlant de pognon et de deal. Pour moi, là, il y a quelque chose qui s'exprime voilà, d'un état d'esprit de l'époque qui est très aigu.
Dernier mot, Lucille Como, pas mieux. Non, il faut
non,
refaire.
Ce serait trop long.
Bon, on fait pour le prochain petit salon.
Ouais.
On fera le match retour.
Avec le diplôme, on espère.
Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, on retrouve Sarah Dion qui va nous rappeler bien sûr la question d'hier soir et sa réponse tout d'abord.
Qui est l'architecte à l'origine de la piscine de Roubaix ?
Un beau flot.
Albert Baer.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition en air. Carte blanche à Thomas Saraceno. C'est au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 6 janvier. Quelle est donc cette question, Sarah ?
Quel animal est au cœur de l'exposition de Thomas Saraceno au Palais de Tokyo ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales. Envoyez à auditeur fc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Sandra Adam Couralet, de Corinne Rondeau et de Frédéric Bonnet. À notre affiche, Peindre la nuit, une exposition en ce moment au centre Pompidou-Metz. Les contes cruels de Paola Rego, c'est au musée de l'Orangerie. Et puis Transmission, Transgression, maîtres et élèves dans l'atelier. On parle de l'atelier d'Eugène Bourdel, c'est donc au musée Bourdel à Paris. Il y aura également un coup de cœur, celui de Frédéric Bonnet pour l'exposition de Michael Heiser à la galerie Gagosian au Bourget.